Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline, branché aujourd'hui sur les fréquences de Radio Free Europe et de Radio Liberty, station lancée au début de la guerre froide par les États-Unis à destination du bloc de l'Est, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie et bien sûr de l'URSS, afin de délivrer aux populations de ces pays des informations auxquelles la censure ne leur donnait pas accès et de mener sur le terrain des ondes, une guerre à la fois politique et psychologique. Mais on pouvait également suivre sur ces fréquences des programmes variés et musicaux présentés en plusieurs langues par des émigrés ayant fui l'URSS et ses satellites et diffusés depuis Munich en Allemagne et Gloria do Ribatero au Portugal. Après la chute du bloc soviétique et la disparition du rideau de fer, les choses ont bien sûr évolué. Basée à Prague depuis 1995, Radio Free Europe diffusera ses émissions dans une trentaine de langues, ciblant prioritairement des pays où la presse n'est pas libre. Une aventure contre laquelle, vous le savez, le président américain Donald Trump a lancé une offensive en mars 2025, coupant non seulement le satellite dédié à ses fréquences, mais suspendant aussi les financements américains vitaux pour la survie de ces médias. Je vous propose donc de revenir sur l'histoire étonnante de ces fréquences déjà évoquées sur cette antenne il y a quelques saisons. Brouillage, pression, attentats, infiltration d'agents et même assassinats. Dès leurs premières années d'existence, Radio Free Europe et Radio Liberty seront la cible des services secrets des pays d'Europe de l'Est qui s'en prendront aussi aux auditeurs de leur pays car, bien évidemment, écouter Radio Free Europe ou Radio Liberty, rare fenêtre ouverte sur le monde extérieur, y est alors interdit. Immergeons-nous donc dans cette étonnante histoire qui baigne dans une époque où plane aussi la menace d'un conflit nucléaire.
En décembre 1949, alors que la guerre froide s'instille et s'installe entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, les États-Unis se lancent dans une véritable croisade pour la liberté, Dixit, avec pour arme la création de Radio Free Europe, destinée à fournir des informations libres et non censurées aux populations du bloc soviétique, et bien sûr, de ce fait, à combattre le communisme. Soutenue par le président Eisenhower, cette croisade prend à ses tout débuts, pour symbole, une cloche qui passera symboliquement par 21 villes américaines, accompagnée d'une charte de la liberté que les citoyens seront invités à signer, en même temps qu'on leur demande de faire des dons au profit de la future RFE, Radio Free Europe. Plus de 16 millions d'Américains signeront et l'argent récolté la première année s'élèvera à $1,317,000. Des dons qui ne suffiront pas à financer la création de la radio, contrairement à ce qu'on laissera entendre officiellement. Et ce n'est que bien plus tard qu'on apprendra que Radio Free Europe est en réalité soutenue financièrement à hauteur de 96% par le gouvernement américain grâce au seul budget qui ne demande aucune justification, celui de la CIA. Les débuts de Radio Free Europe en juillet 1950 seront quelque peu épiques, voire bucoliques. Les toutes premières émissions sont en effet diffusées à destination de la Tchécoslovaquie depuis un émetteur mobile de 7,5 kW installé sur un camion baptisé Barbara, un autre camion étant aménagé en studio, qu'on voit caché dans les bois de Lampertheim au sud de Francfort, dans le secteur américain de la République fédérale allemande. Mais rapidement, en 1951, toujours à Lampertheim, Radio Free Europe mettra en service 5 vrais émetteurs, les fameux camions partant quant à eux pour le Portugal, car pour couvrir une zone géographique plus large, une autre base de diffusion sera, je l'évoquais, érigée à Gloria do Ribatero, à une heure à l'est de Lisbonne. Si les programmes de Radio Free Europe sont retransmis depuis l'Allemagne et le Portugal, donc, ils sont, dans un premier temps, enregistrés à New York et envoyés en Europe sur bande. Avant qu'en 1952, en complément des studios de New York, Radio Free Europe n'installe ses principaux studios à Munich, ville choisie parce que située dans le secteur américain de l'Allemagne et parce qu'on trouve à Munich de nombreux émigrés d'Europe orientale, dont beaucoup ont déjà travaillé dans le secteur de la presse et de la radio.
Munich, in West Germany, is about 100 miles from the Iron Curtain. In this historic city is located the headquarters of Radio Free Europe. Here, in this building, programs are produced that break the communist communications monopoly in 5 formerly independent countries of Eastern Europe. programs that oppose communism with the truth.
Des programmes qui opposent le communisme à la vérité, entend-on dans cette archive. Au fil des années 50, RFE, qui veut être plus qu'un porte-parole des exilés, constituera des équipes de journalistes de plus en plus fournies et composées, justement pour chaque service linguistique, d'exilés des différents pays couverts. En conséquence de quoi, à la fin des années 50, les installations de Munich disposeront de 21 studios, 6 pour le direct, un par langue, 2 studios réservés aux retransmissions vers le relais portugais de Gloria au Portugal, un grand studio, des studios de production et un studio de réserve.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Tuke Radio, Svobodna Evropa. Głosy na Svobodna Bulgaria.
Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
En plus de ces installations de Munich et de Gloria, différents bureaux à l'étranger vont aussi concevoir des éléments de programme pour Radio Free Europe, bureau situé à Paris, Londres, mais aussi à Bruxelles, aux 50 rue de la Vallée, près de la place Flagey, près de notre maison de la radio, où seront réalisées des émissions en polonais. Si Radio Free Europe émet désormais à destination du bloc de l'Est, encore faut-il faire connaître son existence et ses fréquences aux populations auxquelles elle s'adresse. Raison pour laquelle, en 1951, la CIA, qui chapeaute secrètement RFE, utilisera un stock de ballons-sondes de la Seconde Guerre mondiale pour survoler la Tchécoslovaquie et y jeter plus de 11 millions de tracts publicitaires pour les émissions de RFE, Radio Free Europe. Une opération qui en précédera bien d'autres. D'octobre 1951 à novembre 1956, plus de 350 000 ballons seront lâchés dans le ciel de l'Europe centrale, transportant, lige, plus de 300 millions de tracts, affiches, livres et autres imprimés, qui se présentent tantôt comme des soutiens aux citoyens souffrant de l'oppression communiste, hein, entre guillemets, tantôt sous forme de critiques satiriques des régimes et dirigeants communistes. Mais il peut aussi s'agir de messages exprimant la solidarité du peuple américain envers les habitants des pays d'Europe de l'Est, l'idée étant par ailleurs de consolider la réputation de RFE en tant que radiodiffuseur impartial. Pour en revenir à la radio, dans le but de savoir comment éclairer au mieux les populations de l'Est et donc de contrecarrer la propagande rouge sur les ondes officielles soviétiques, bulgares, tchécoslovaques, RFE dispose à quelques kilomètres de Munich, d'une base qui capte une cinquantaine de ces radios du bloc soviétique dont les programmes sont attentivement écoutés et leurs informations transcrites et analysées. Autre source exploitée par Radio Free Europe pour alimenter donc ces journaux, savoir comment les axer, les Anglais, les renseignements fournis par ceux qui ont fui l'Est pour émigrer dans les différents pays d'Europe de l'Ouest. Renseignements récoltés via les bureaux et correspondants installés dans 15 villes dont Vienne, Berlin, Hambourg, Istanbul, Paris, Londres, Stockholm et Bruxelles. De quoi, je le disais, alimenter les journaux parlés de RFE, mais aussi les téléscripteurs de nombreuses rédactions occidentales, RFE, Radio Free Europe, agissant également comme une agence de presse. Mais quoi de mieux qu'un témoignage direct de réfugiés au micro de Radio Free Europe, comme celui de ce Tchécoslovaque qui explique comment il a fui l'Est par la mer sur un petit canot gonflable.
I left Czechoslovakia because the conditions there are very bad for me. And I escaped across the Baltic Sea to West Germany.
From East Germany to West Germany?
From Varnhem in the to West Germany.
How long did it take?
I spent 3 days and three nights on the sea.
How did you get there? In this small rubber boat?
Yes, in this small boat.
Trois jours et trois nuits passés sur son petit canot pneumatique, entend-on ici un cri du cœur, de l'âme, du pain béni pour les ondes de RFE.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Radio Free Europe, RFE, n'est pas la seule station américaine à émettre vers l'Est. Parallèlement à ces fréquences destinées aux populations des pays satellites de l'URSS, Radio Liberty, RL, sera créée par le Comité américain pour la libération des peuples de Russie et dirigée précisément vers l'Union soviétique. Elle commencera à émettre le 1er mars 1953, gagnant très rapidement une audience importante quand, 4 jours après ses premières émissions, elle couvrira la mort de Joseph Staline, envoyant là encore des ballons gorgés de tracts pour informer la population des émissions qui ont lieu pendant ce temps. Diffusée depuis les émetteurs situés au sud de Francfort, comme RFE, Radio Liberty pourra compter sur une autre base qui se situe à l'aéroport d'Oberwiesenfeld, à la périphérie de Munich, laquelle emploie plusieurs anciens agents nazis recrutés pour leurs compétences. En décembre 1954, Radio Liberty diffusera, elle aussi, en différentes langues, 17 pour être précis, dont l'ukrainien, le biélorusse, le kazakh, le kirghiz, le tadjik, le turkmène, l'ouzbek, le tartare, le bachkir, l'arménien, l'azerbaïdjanais, le géorgien et autres langues du Caucase et de l'Asie centrale. Les programmes destinés aux provinces orientales de la Russie étant transmis à partir d'émetteurs ondes courtes situés à Taïwan. En 1959, Radio Liberty émettra également depuis la base espagnole de Platja de Pals.
Although the station features a variety of programs, news is the staple of its broadcast fare. Uncensored news. This is the newsroom with its chatter of wire service tickers, pouring in news from all corners of the world, with its writers, editors and translators. Newscasts include special items. Items not expected to make pleasant listening for the regime's leaders.
Des sujets qui ne sont pas faits pour plaire aux leaders de ces régimes, lance ce commentateur à propos du contenu des informations de Radio Liberty. De fait, la popularité à l'Est des différentes fréquences de Radio Free Europe et de Radio Liberty ne manquera pas d'enrager les autorités du bloc soviétique, notamment lors du printemps de Prague et de sa répression en 1968, puisque ces ondes libres serviront à tous ceux qui voudront renverser le régime. Les autorités russes mettant tout en œuvre pour contrecarrer ces stations en brouillant leurs émissions très régulièrement, bien sûr, mais aussi en traquant ceux qui, de leur côté du rideau de fer, collaborent secrètement avec elles. C'est ainsi qu'en RDA, en République démocratique allemande, enfin en Allemagne de l'Est, des informateurs de ces radios seront condamnés pour espionnage, de même qu'en Roumanie, des jeunes seront arrêtés pour avoir correspondu avec la station, pour avoir envoyé du courrier à ses animateurs et journalistes. Mais les services extérieurs du bloc soviétique mèneront également de sanglantes actions à l'ouest contre Radio Free Europe ou Radio Liberty. Au fil des décennies, les services secrets de l'Est ainsi que le KGB tenteront par tous les moyens d'affaiblir Radio Free Europe et Radio Liberty et d'éliminer certains des dissidents qui collaborent avec elles. En septembre 1954, le corps de Leonid Karas, émigré soviétique travaillant pour le service biélorusse de ses fréquences américaines, sera repêché dans la rivière Isar, près de Munich, dans des circonstances suspectes. 2 mois plus tard, c'est le chef du bureau azerbaïdjanais de Radio Liberty qui sera assassiné. En 1959, des doses fatales d'atropine dérivées de la belladone seront retrouvées dans les salières de la cafétéria de Radio Free Europe, l'attentat étant déjoué grâce à un agent double. Des tentatives de sabotage que le KGB mènera aussi au Portugal à Gloria. Mais l'affaire la plus retentissante et bien plus tardive sera celle dite des parapluies bulgares. Georgi Markov est un dissident bulgare, un romancier et dramaturge qui a fui son pays en 1969 pour s'installer à Londres 2 ans plus tard, en 71 donc. Là, il apprend l'anglais et devient journaliste pour la BBC World Service, mais aussi pour son équivalent ouest-allemand, la Deutsche Welle, ainsi que pour Radio Free Europe, où chaque semaine, entre 1975 et 1978, à travers reportages et analyses, Markov critique sans relâche le gouvernement communiste bulgare et son secrétaire général, Todor Zivkov, qui le considère dès lors comme leur ennemi numéro un homme à abattre. Ce que des agents de la police secrète bulgare, assistés par le KGB, tenteront de faire par 2 fois en vain. Le 7 septembre 1978, Georgi Markov, après avoir traversé le Waterloo Bridge de Londres, attend à un arrêt de bus lorsqu'il est heurté à la jambe par un homme portant un parapluie. L'homme s'excuse et poursuit son chemin. Lorsque l'écrivain arrive à son bureau de la BBC World Service, Il note qu'une petite boursouflure rouge s'est formée à l'endroit où il a reçu ce fameux coup de parapluie et que cette zone est toujours douloureuse. Le soir même, pris d'une importante fièvre, il est admis à l'hôpital Balham où il mourra 3 jours plus tard. Georgi Markov avait eu le temps de raconter au médecin que l'homme qu'il avait heurté avait un accent étranger et qu'il avait senti une piqûre douloureuse lorsque la pointe du parapluie l'avait touché. Sur base de ces informations, Scotland Yard ordonnera une autopsie, les médecins légistes découvrant un petit projectile sphérique et métallique de la taille d'une tête d'épingle niché dans son mollet. Enfin, le 21 février 1981, le siège de RFE, Radio Free Europe, sera victime d'un attentat à l'explosif commandité par Nicolae Ceaușescu, président de la Roumanie. Si RFE et RL, Radio Free Europe et Radio Liberty, sont secrètement financés par la CIA, ces radios entretiendront longtemps l'illusion d'une initiative à la fois civile et privée, et donc toujours ouverte aux dons, comme l'explique cette publicité datant de 1967.
The young people in Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Romania, Hungary. They're talking, thinking about the world, shaping their ideas and ideals. Shouldn't they hear both sides? Shouldn't they hear the truth? The main way for many of the young people in these communist countries to hear the truth is through Radio Free Europe. Without Radio Free Europe, their major source of news could be communist propaganda, could be bad news for you. Shouldn't they hear both sides? Radio Free Europe needs your support.
Mais en 1971, à la suite de révélations parues dans la presse et d'enquêtes menées par le Congrès sur les activités de la CIA, l'aide directe de l'agence de renseignement sera supprimée et RFE comme RL seront placés sous la tutelle du Congrès via le département d'État. Encore que le maintien même de ces stations américaines soi-disant privées installées à Munich avait fait l'objet d'âpres controverses aux États-Unis, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat s'étant attaqué à cette survivance de la guerre froide. Au final, ces radios dépendront d'une nouvelle instance, le Conseil américain pour les communications internationales privées. Car même si l'époque est à la détente entre l'Est et l'Ouest, Radio Free Europe et Radio Liberty demeurent les principales forces de frappe de la propagande occidentale dans la guerre psychologique qui se poursuit malgré ce climat plus clément. En 1976, enfin, Radio Free Europe et Radio Liberty fusionneront en une nouvelle organisation éducative sans but lucratif qui s'appellera tout simplement RFE-RL. En 1993, après la chute du mur, le président hongrois Václav Havel proposera d'accueillir RFE-RL à Prague, où cette radio pourra s'installer provisoirement dans le bâtiment de l'ancien Parlement communiste, mis gratuitement à disposition, ce qui sera chose faite en 1995, bye bye Munich donc, avant l'inauguration en 2009 de nouveaux locaux à la périphérie de Prague. Mais bien sûr, en ces années 90, donc quand cette radio quitte Munich pour Prague, la situation géopolitique a totalement changé depuis l'effondrement de l'URSS et le basculement dans la démocratie de ces républiques satellites. De nombreuses émissions européennes sont dès lors supprimées et RFE-RL se voit attribuer d'autres missions à destination notamment du Moyen-Orient, du Kosovo ou de l'Afghanistan. Dernière chose, les relations entre Moscou et RFE-RL, rassemblons ces deux fréquences désormais fusionnées sous un seul acronyme, ces relations connaîtront au fil du temps quelques retournements de situation. En 1991, après que pendant 40 ans RFE-RL s'est battu contre le brouillage soviétique, le président russe Boris Eltsine lui donnera la permission d'ouvrir ses propres bureaux à Moscou. Mais 30 ans plus tard, en avril 2021, il y a quelques mois donc, le Kremlin cherchera à museler RFE-RL en exigeant le paiement sans délai de 2,5 millions de dollars d'amende cumulée en tant qu'agent étranger, un statut que réfutera la radio qui ne paiera donc pas cette amende, avec pour conséquence le gel de ses comptes par les autorités russes. Ils veulent que nous quittions le pays ou nous stériliser, nous rendre inefficaces, déclara Jamie Fly, le président de la radio. Il faut dire que Radio Free Europe n'a cessé de diffuser en Russie des informations sur des faits, des méfaits plutôt concernant le pouvoir et ses amis, information bien sûr censurée dans les autres médias russes, la presse indépendante étant quant à elle écrasée, on le sait, par le bulldozer Poutine.
Radio Caroline.
Début 2025, avant l'annonce par le président Trump du démantèlement des radios Voice of America, Radio Free Asia et Radio Free Europe, ces fréquences émettaient encore en 27 langues dans 23 pays par onde courte, onde moyenne, FM et bien sûr Internet, grâce à 1700 journalistes permanents et pigistes s'adressant chaque semaine à une audience de près de 50 millions de personnes. Et bien voilà, notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, eh bien faites-le savoir et puis partagez-le et puis étoilez-le. Bonne nuit ou belle journée.
Radio Caroline. We're on the air. Classic 21.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.